Première vague de l'Empire, l'hyper-empire. Beaucoup aux États-Unis comme ailleurs prédisent que l'histoire ne racontera désormais jamais plus rien d'autre que la généralisation du marché, puis de la démocratie à l'intérieur des frontières de chaque pays. C'est ce qu'ils nomment la fin de l'histoire. Cette évolution, disent-ils, se fera naturellement, pacifiquement. Selon eux, elle n'exigera pas une guerre des démocraties contre les ultimes dictatures. Ce n'est pas, explique-t-il, en bombardant Moscou qu'on en a fini avec l'Union soviétique, ni en bombardant et occupant Bagdad qu'on démocratisera l'Irak, ni même en recourant à des sanctions économiques. Aucun embargo, plaide-t-il, n'a jamais vaincu une seule dictature. Les peuples, espère-t-il, se libéreront eux-mêmes par le simple jeu de la croissance économique, de la transparence de l'information et de l'expansion des classes moyennes. L'ordre marchand, prévoit-il, sera alors polycentrique, c'est-à-dire une juxtaposition d'un nombre croissant de démocraties de marché autour de quelques puissances dominantes. Un tel scénario aura bien lieu. Entre 2025 et 2035, quand la neuvième forme s'effacera, elle laissera place à un monde sans maître, vaguement coordonné par quelques puissances relatives. Mais je ne crois pas que celui-ci puisse durer. Un tout autre monde, dans le droit fil de l'histoire, se mettra ensuite en place. Un marché sans démocratie. Vers 2050, sous le poids des exigences du marché et grâce à de nouveaux moyens technologiques, l'ordre du monde s'unifiera autour d'un marché devenu planétaire, sans État. Commencera ce que je nommerai l'hyper-empire, déconstruisant les services publics, puis la démocratie, puis les États et les nations mêmes. Ce marché mondial unifié et sans État restera durablement fidèle aux valeurs de l'ancien cœur californien. Comme les valeurs culturelles de Londres ressemblèrent longtemps à celles d'Amsterdam, celles de Boston à celles de Londres et celles de Los Angeles à celles de New York, l'hyper-empire demeurera partiellement américain. Ses objets de consommation, on le verra, seront encore très largement la prolongation des objets nomades, tout comme le seront sa culture métissée, son mode de vie précaire, ses valeurs individualistes, son idéal narcissique. Ainsi débutera la première phase de l'avenir. Puis viendra, on le verra, une série de guerres d'une extrême violence, conduisant à un hyper-conflit. Enfin, devant l'échec de l'hyper-empire et de l'hyper-conflit, de nouvelles valeurs conduiront à un rééquilibrage entre démocratie et marché à l'échelle du monde, à une hyper-démocratie planétaire. La généralisation de la démocratie de marché. Le monde polycentrique. Partout où ce n'est pas encore le cas, c'est-à-dire essentiellement en Chine et dans le monde musulman, la croissance marchande créera vers 2035 une classe moyenne qui mettra à bas la dictature et installera une démocratie parlementaire. On continuera dès lors à assister, comme depuis deux siècles, à la généralisation au monde entier, progressive et parallèle, chaotique et irréversible, du marché puis de la démocratie, c'est-à-dire de la démocratie de marché. Le phénomène concernera même l'Égypte, l'Indonésie, le Nigeria, le Congo, la Chine et l'Iran. Tous ces pays seront emportés, intacts ou par morceaux, par la logique qui naguère renversa la dictature au Chili, en Espagne, en Russie ou en Turquie. L'islam, l'hindouisme, le confucianisme ne s'opposeront plus à la démocratie. Chacune de ces vieilles sagesses en revendiquera même la paternité. La mise en place d'élections libres ne suffira évidemment pas à instaurer durablement ces démocraties de marché. Les exemples irakiens, algériens ou ivoiriens démontrent que des élections, même libres, si elles ne sont pas accompagnées de la mise en place d'institutions stables, économiques et politiques, et s'il n'existe pas un véritable désir des citoyens de vivre ensemble, peuvent au contraire faire reculer la démocratie. Il faudra que, progressivement, ces pays, comme l'ont fait tous les autres avant eux, se dotent de constitutions laïques, de parlements, de partis politiques, de systèmes juridiques et policiers respectant les droits de l'homme, d'une véritable pluralité de l'information. Cela leur prendra du temps. Il ne faudra pas exiger de l'Asie et de l'Afrique ce que nul, à l'époque, n'exigea de l'Europe. Pour les y aider, les nations déjà démocratiques devront se servir de leurs propres valeurs et de leurs institutions plus que de leurs missiles. Elles devront ouvrir leur marché aux entreprises, aux produits et aux étudiants venus de ces pays. Elles devront y financer des investissements créateurs d'emplois, y soutenir de nouveaux médias, y favoriser la naissance d'une agriculture moderne, d'un système bancaire, d'une sécurité sociale, d'un système judiciaire et policier, enfin, y promouvoir des journaux, des radios, de nouvelles élites et des organisations non gouvernementales. Au fil de ce processus, des ethnies, des régions, des peuples décideront de ne plus vivre les uns avec les autres. Des régions riches se débarrasseront du fait de régions pauvres, comme on a vu la Tchéquie se séparer de la Slovaquie. Parmi les démocraties existantes, la Flandre pourrait décider de se séparer de la Wallonie, l'Italie du Nord de celle du Sud, la Catalogne du reste de l'Espagne, l'Écosse réclamer son indépendance. Les Kurdes pourraient se dissocier des autres Irakiens. Les Indiens ou les Indonésiens pourraient même s'éloigner les uns des autres. Les États créés artificiellement par la colonisation en Afrique et en Asie voleraient ainsi en éclats. Plus de 100 nations nouvelles pourraient naître avant la fin du siècle. Dans chacune de ces futures démocraties, comme dans les anciennes, une part croissante du revenu national passera pour un temps par les budgets publics et par des systèmes d'assurance, sociales et privées, qui mutualiseront les risques de santé et ceux liés au vieillissement. Ce processus s'accompagnera de l'effacement progressif des classes paysannes et ouvrières et de l'essor de classes moyennes, moins soumises à la pénibilité du travail, mieux à même de se contenter de liberté formelle et de bien-être matériel. Aussi longtemps que démocratie et marché resteront de forces égales, ils se partageront leur champ de compétences et respecteront leurs frontières. L'ordre marchand s'organisera comme une juxtaposition de démocratie de marché. Le monde sera polycentrique, avec une ou deux puissances majeures sur chaque continent. Les États-Unis, le Brésil, le Mexique, la Chine, l'Inde, l'Égypte, la Russie et l'Union européenne, même si celle-ci ne présentera pas tous les attributs d'un État. Le Nigeria s'y joindra, s'il existe encore, ce qui est peu probable. Ensemble, ces 9 nations, devenues maîtresses de l'ordre polycentrique, formeront un gouvernement informel du monde dont j'aurai à reparler dans la 3e vague de l'avenir. On les retrouvera d'abord au Conseil de sécurité des Nations Unies et au G8. Un tel ordre polycentrique ne pourra pas se maintenir. Par nature, le marché est conquérant. Il n'accepte pas de limites, de partage de territoire, de trêve. Il ne signera pas de traité de paix avec les États. il refusera de leur laisser des compétences. Il s'étendra bientôt à tous les services publics et videra les gouvernements, même ceux des maîtres de l'ordre polycentrique, de leurs ultimes prérogatives, y compris celles de la souveraineté. Même si pour un temps, des nations, des agences de régulation et des organisations internationales vont tenter de contenir et de limiter les marchés, les puissances industrielles, financières, technologiques, qu'elles soient légales ou illégales, refuseront d'accepter tout équilibre polycentrique, bouleverseront sans cesse les frontières et concurrenceront tous les services publics les uns après les autres. Puis, les services d'éducation, de santé, ceux liés à l'exercice de la souveraineté, aujourd'hui remplis pour l'essentiel par des agents publics, cesseront totalement d'être publics. Médecins, professeurs, puis juges et soldats deviendront des salariés du secteur privé. Enfin, comme d'autres avant eux, ces services, devenus de plus en plus coûteux, en temps et en argent, du fait du vieillissement de la planète, de l'urbanisation massive, de l'insécurité croissante, des enjeux écologiques et de la nécessité de se former en permanence, seront remplacés par des objets industriels produits en série. Commence déjà, une formidable bataille géopolitique entre les démocraties de marché et le marché, pour la suprématie planétaire. Cette bataille conduira à la victoire, impensable aujourd'hui, du capitalisme sur les États-Unis et même du marché sur la démocratie. En voici l'histoire. L'objet substitut de l'État, de l'hypersurveillance à l'autosurveillance. Progressivement, les marchés trouveront de nouvelles sources de rentabilité dans les activités aujourd'hui exercées par les services publics. Éducation, santé, environnement, souveraineté. Des entreprises privées voudront commercialiser ces fonctions, puis les remplaceront par des produits de consommation fabriqués en série, qui entreront parfaitement dans la dynamique du progrès technique à l'œuvre depuis les débuts de l'ordre marchand. D'abord, on cherchera, et on trouvera, de nouveaux moyens d'accumuler de plus en plus d'informations et d'énergie dans des volumes de plus en plus réduits. En particulier, pour diminuer la consommation d'énergie, de matières premières et d'eau, et les conséquences sur l'environnement. Cela passera par des technologies conduisant à stocker énergie et information sur des entités nanométriques, d'où l'appellation de nanotechnologie. On ira vers la construction de nanomachines par assemblage de molécules, ce qui exigera de repérer les atomes, de les manipuler et de les positionner. Diverses technologies permettront d'économiser eau, forêt et pétrole, d'utiliser des ressources encore incertaines, comme les richesses maritimes et celles de l'espace. Des microprocesseurs utiliseront des biomolécules de l'ADN et des peptides. Ils serviront à fabriquer des nano-ordinateurs. Des nano-centrales d'énergie utiliseront des piles à hydrogène. Des autorépliqueurs seront capables de se réparer eux-mêmes et de se reproduire. Par ailleurs, des progrès techniques majeurs amélioreront l'efficacité écologique des matériaux, de la propulsion, de l'aérodynamique, des structures, des combustibles, des moteurs, des systèmes. Ces technologies modifieront radicalement la façon dont sont produits les objets actuels. Elles permettront de consommer beaucoup moins d'énergie par unité produite, de mieux gérer l'eau potable, les déchets urbains et les émissions polluantes. Elles amélioreront les caractéristiques des produits alimentaires, des vêtements, des logements, des véhicules, des équipements ménagers et des objets nomades. D'autres objets nomades miniaturiseront les moyens d'informer, de distraire, de communiquer, de transporter, augmentant massivement l'ubiquité nomade. L'objet nomade unique sera intégré au corps d'une façon ou d'une autre. Il servira de capteur et de contrôleur. Des matières plastiques spécifiques, récupérables et recyclables, permettront de transformer les vêtements en objets nomades connectés. D'autres matières plastiques deviendront des écrans jetables, ce qui permettra de réaliser des murs images dans les lieux publics et dans des maisons connectées. Cela bouleversera la façon d'éclairer, de construire, de lire, d'habiter, de vivre le nomadisme. Des robots personnalisés aideront les invalides, puis les valides, dans leur vie quotidienne. Ils permettront de participer simultanément à plusieurs réunions virtuelles et de reproduire, au moins virtuellement, une personne disparue ou fantasmée. Des voitures autoguidées permettront de ne plus avoir à conduire, du moins sur autoroute. Des avions hypersoniques mettront Tokyo et Los Angeles à moins de 4 heures de n'importe quel point du Pacifique. Des bateaux mettront tous les ports d'Asie à moins de 24 heures les uns des autres et réduiront la traversée du Pacifique à 3 jours. Diverses sociétés privées enverront des touristes dans des hôtels placés en orbite. Elles organiseront des voyages vers la Lune, puis vers Mars. Vers 2040, s'amorcera l'essentiel qui diminuera massivement le coût d'organisation des démocraties de marché, rétablira la rentabilité de l'industrie, réduira progressivement à néant le rôle des États et détruira peu à peu l'ordre polycentrique. Des objets nouveaux prendront comme moteur de la croissance le relais des automobiles, des machines à laver, des objets nomades. Il s'agira d'objets de surveillance, remplaçant de nombreuses fonctions de l'État que je nommerai surveilleurs. Les services d'éducation, de santé, de souveraineté seront ainsi progressivement remplacés, comme ce fut le cas avec les transports, les services domestiques, la communication, par des machines produites en série, ce qui ouvrira, une nouvelle fois, de nouveaux marchés aux entreprises et augmentera la productivité de l'économie. Comme il s'agira là de toucher à des services essentiels à l'ordre social, constitutifs même des États et des peuples, cela modifiera radicalement les relations à l'imaginaire individuel et collectif, à l'identité, à la vie, à la souveraineté, au savoir, au pouvoir, à la nation, à la culture, à la géopolitique. Là se situe la plus profonde révolution qui nous attend dans le prochain demi-siècle. Ces surveilleurs ne surgiront pas tout près de l'imagination de chercheurs farfelus ou de techniciens illuminés. Ils répondront aux impératifs financiers de l'ordre marchand, toujours à l'affût de nouveaux moyens de réduire le temps nécessaire à la production des objets existants, d'augmenter la capacité des réseaux, de réduire les dépenses collectives, de valoriser l'usage du temps, de transformer des désirs et des besoins en richesses marchandes. Ce processus se déroulera en deux étapes, que je nomme hypersurveillance et autosurveillance. Quand la loi du marché commencera à l'emporter sur celle de la démocratie, les services publics d'éducation, de soins, de sécurité, puis de justice et de souveraineté, commenceront à être concurrencés par des entreprises privées. Les États seront tenus de traiter les chaînes de cliniques étrangères comme les hôpitaux publics, les filiales d'universités privées étrangères comme les universités nationales. Des compagnies privées de sécurité, de police, de renseignement concurrenceront les polices nationales dans la surveillance des mouvements et des données pour le compte de compagnies d'assurance et d'entreprises qui voudront tout savoir de leurs employés, de leurs clients, de leurs fournisseurs, de leurs concurrents, de leurs risques, et qui voudront protéger leurs actifs, matériels, financiers, intellectuels, contre diverses menaces. Ce transfert vers le privé réduira peu à peu les dépenses publiques et aidera à économiser les ressources rares. Il s'inscrira, comme on l'a vu précédemment, dans la foulée de l'apparition de services permettant de suivre à la trace objets et gens. L'ubiquité nomade ouvre à l'hypersurveillance quand celui qui est connecté laisse trace de son passage. Des services privés géreront ensuite les droits sociaux et les services administratifs. On pourra recevoir un document administratif ou une allocation plus rapidement en payant plus cher. C'est déjà le cas en Grande-Bretagne. D'ores et déjà, l'État s'est déchargé en beaucoup de lieux d'innombrables décisions confiées à de hautes autorités indépendantes qui le dégagent de toute responsabilité. Autrement dit, en échange d'une baisse d'impôts qui avantagera surtout les plus riches, les services publics deviendront payants, ce qui pénalisera les plus pauvres. Et comme ces entreprises privées en concurrence devront dépenser des sommes considérables pour attirer les clients, ce que n'a pas à faire un service public, le coût final du service pour le client augmentera d'autant. Les usagers, personnes privées ou entreprises, deviendront des consommateurs, tenus de payer directement leurs services, soit sous forme d'achats directs aux prestataires, soit sous forme de primes versées à des compagnies d'assurance privées ou publiques, substituées aux impôts qui diminueront massivement. Ces compagnies d'assurance exigeront non seulement que leurs clients paient leurs primes pour s'assurer contre la maladie, le chômage, le décès, le vol, l'incendie, l'insécurité, mais elles vérifieront aussi qu'ils se conforment à des normes pour minimiser les risques qu'elles auront à couvrir. Elles en viendront progressivement à dicter des normes planétaires. Quoi manger, quoi savoir, comment conduire, comment se conduire, comment se protéger, comment consommer, comment produire. Elles pénaliseront les fumeurs, les buveurs, les obèses, les inemployables, les mal protégés, les agressifs, les imprudents, les maladroits, les distraits, les gaspilleurs. L'ignorance, l'exposition au risque, les gaspillages, la vulnérabilité seront considérés comme des maladies. Les autres entreprises devront elles aussi obéir à des normes afin de réduire les risques de catastrophes industrielles, d'accidents du travail ou d'agressions externes, voire de gaspillage de ressources réelles. D'une certaine façon, toutes les entreprises seront ainsi poussées à tenir compte dans leurs décisions de l'intérêt général. Certaines feront même de leur citoyenneté une des dimensions de leur image et de leur action. La montée des risques liés au vieillissement, à la croissance urbaine, aux catastrophes provoquées par les dérèglements écologiques, aux attentats, augmentera peu à peu la part de ces primes d'assurance dans le revenu national, en même temps que baissera la part des prélèvements obligatoires. Les entreprises devront à la fois respecter les normes que leur imposeront les compagnies d'assurance et imposer à leurs collaborateurs, dont ils paieront une partie des cotisations, de respecter d'autres normes. Surveiller sa santé, son savoir, sa vigilance, ses propriétés, économiser les ressources rares, se soigner, se former, se protéger et plus généralement être en forme, deviendront des comportements socialement nécessaires. Pour que les compagnies d'assurance soient économiquement rentables, chacun, personne privée, entreprise, devra ainsi accepter qu'un tiers vérifie sa conformité aux normes. Pour cela, chacun devra accepter d'être surveillé. Surveillance, maître mot des temps à venir. Ainsi verra d'abord le jour une hyper-surveillance. Les technologies permettront de tout savoir des origines des produits et du mouvement des hommes, ce qui aura aussi, dans un avenir plus lointain, des applications militaires essentielles. Des capteurs et des caméras miniatures placés dans tous les lieux publics, puis privés, dans les bureaux et les lieux de repos, et finalement sur les objets nomades eux-mêmes, surveilleront les allées et venues. Le téléphone permet déjà de communiquer et d'être repéré. Des techniques biométriques, empreintes, iris, forme de la main et du visage, permettront la surveillance des voyageurs, des travailleurs, des consommateurs. D'innombrables machines d'analyse
permettront de surveiller la santé d'un corps, d'un esprit ou d'un produit. L'objet nomade unique sera en permanence localisable. Toutes les données qu'il contiendra, y compris les images de la vie quotidienne de chacun, seront stockées et vendues à des entreprises spécialisées et à des polices publiques et privées. Les données individuelles de santé et de compétences seront tenues à jour par des bases de données privées qui permettront d'organiser des tests prédictifs en vue de traitements préventifs. La prison elle-même sera remplacée progressivement par la surveillance à distance d'un confinement à domicile. Plus rien ne restera caché. La discrétion, jusqu'ici condition de la vie en société, n'aura plus de raison d'être. Tout le monde saura tout sur tout le monde. On évoluera vers moins de culpabilité et plus de tolérance. L'oubli était teinté hier de remords. Demain, la transparence incitera à ne plus en avoir. La curiosité, fondée sur le secret, disparaîtra aussi, pour le plus grand malheur des journaux à scandale. Du coup, la célébrité aussi. Un peu plus tard, vers 2050, le marché ne se contentera pas d'organiser la surveillance à distance. Des objets industriels produits en série permettront à chacun d'auto-surveiller sa propre conformité aux normes. Des auto-surveilleurs apparaîtront. Des machines permettront à chacun, entreprise ou personne privée, de surveiller sa consommation d'énergie, d'eau, de matières premières, etc. D'autres encore, d'auto-surveiller son épargne et son patrimoine. Ces machines permettront aussi de gagner du temps de vie. Déjà, le miroir, la balance, le thermomètre, l'alcotest, les tests de grossesse, les électrocardiographes, d'innombrables capteurs mesurent des paramètres, les comparent à une valeur dite normale et annoncent à chacun le résultat du test. Des technologies démultiplieront ces moyens de surveillance portative. Des ordinateurs seront intégrés aux vêtements par des nanofibres et miniaturiseront davantage encore ces autosurveilleurs du corps. Des puces électroniques sous-cutanées enregistreront continuellement les battements du cœur, la pression artérielle, le taux de cholestérol. Des microprocesseurs branchés sur différents organes surveilleront leurs écarts de fonctionnement par rapport à des normes. Des caméras miniatures, des senseurs électroniques, des biomarqueurs, des nanomoteurs, des nanotubes, capteurs microscopiques qu'on pourra introduire dans les alvéoles pulmonaires ou dans le sang, permettront à chacun de mesurer en permanence ou périodiquement les paramètres de son propre corps. De même apparaîtront, en matière d'éducation et d'information, des instruments et des logiciels d'auto-surveillance de la conformité à des normes de savoir. Ils organiseront la vérification des connaissances. L'ubiquité nomade de l'information deviendra contrôle permanent du savoir. Pendant quelque temps encore, seuls médecins et professeurs qui collaboreront à la production et à l'expérimentation de ces auto-surveilleurs seront autorisés à s'en servir. Puis, ces objets seront miniaturisés, simplifiés, fabriqués à coût très bas et rendus disponibles à tous, en dépit de la forte opposition des experts qu'ils concurrenceront. La surveillance deviendra nomade et autonome. Chacun renouvellera avec passion ses instruments. La peur de la dégradation physique et de l'ignorance, la familiarité croissante avec les objets nomades, la méfiance grandissante envers les corporations médicales et enseignantes, la foi dans l'infaillibilité technologique ouvriront d'énormes marchés à ces diverses gammes d'appareils. Les compagnies d'assurance y pousseront, soucieuses d'ajuster en permanence leurs primes à l'évaluation des risques encourus par chacun de leurs clients. Elles exigeront donc de leurs clients qu'ils fassent la preuve qu'ils utilisent des autosurveilleurs. Les praticiens se trouveront alors un nouveau rôle en soignant des maladies qui, auparavant, n'auraient pas été détectées. Des professeurs deviendront les tuteurs de ceux qui auront été repérés comme réfractaires au savoir. une nouvelle fois, des services collectifs, cette fois étatiques, deviendront des objets industriels produits en série. Tout ce qui se met en place depuis quelques décennies trouvera son aboutissement. Chacun sera devenu son propre gardien de prison. En même temps, la liberté individuelle aura atteint son paroxysme, au moins dans l'imaginaire. Au-delà des autosurveilleurs, viennent déjà des autoréparateurs, permettant d'amender les erreurs détectées par les autosurveilleurs. Une des premières formes de cette autoréparation aura été les industries du maquillage, de la beauté, de la mode, de la diététique, de la gymnastique, de la remise en forme, de la chirurgie esthétique. Le vieillissement du monde en augmentera la nécessité. On commencera par intégrer des dispositifs d'autoréparation dans des systèmes artificiels tels que machines, ponts, immeubles, automobiles, équipements ménagers, objets nomades. Puis des microprocesseurs, d'abord fabriqués avec des matériaux organiques, ensuite à partir de biomatériaux, s'occuperont de réparer les corps. Ils délivreront des médicaments à intervalles réguliers. Des microcapsules seront introduites dans le sang avec mission de repérer et détruire l'amorce d'un cancer, de lutter contre le vieillissement du cerveau et du corps. Si l'on vient à connaître les mécanismes génétiques des dépendances, on pourra aussi tenter d'en bloquer ainsi les manifestations. Il sera même possible un jour de manipuler l'intérieur de cellules sans les altérer pour réparer in vivo les organes humains. Au-delà de ces objets, chacun voudra aussi disposer de services et d'accessoires de voyage pour l'ultime traversée. La valorisation du temps s'étendra à la mise sur le marché de moyens d'atteindre à l'éternité. Au lieu de vendre, comme jadis l'Église, des indulgences, le marché vendra des services de suicide, de mort médicalement assistée, de cryogénisation. Puis, on commercialisera des machines permettant d'organiser des simulacres d'agonie, des semi-suicides, des expériences de presque mort, des aventures extrêmes sans garantie de retour. Ultérieurement, les progrès des neurosciences permettront d'aller chercher, par un acte purement mental, des connaissances ou des informations dans des bases de données externes, sans avoir eu à les stocker dans sa propre mémoire. Des prothèses bioniques, branchées directement sur le cerveau, aideront à lancer des ponts entre des savoirs, à produire des images mentales, à voyager, à apprendre, à fantasmer, à communiquer avec d'autres esprits. On sait déjà déplacer un curseur sur un écran grâce à une image mentale transmise à un ordinateur par le biais d'un implant électronique placé dans le cortex moteur. Cela permet déjà à un tétraplégique d'écrire 15 mots à la minute par simple transmission de pensée et de les envoyer par email. La télépathie est ainsi déjà une réalité. Demain, ces processus permettront de fournir de nouvelles formes de communication directe par l'esprit, d'améliorer le processus d'apprentissage et de création en réseau. On en fera aussi une source d'émotions artistiques nouvelles.